J'aimerais, sans plus tarder, passer à la parole de Dieu, partager ensemble ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Évidemment que quand on apporte la parole, on s'inclut dedans. Le Seigneur nous parle, et puis quand le Seigneur nous parle, ce que nous devons faire, c'est obéir. Le titre du partage de ce matin, c'est « Marcher, bien sûr, mais pas n'importe comment. Marcher de progrès en progrès. » Parce que la Bible, elle nous y exhorte, évidemment. Donc, marcher, on le sait tous, hein, c'est une métaphore qui se rapporte au style de vie chrétien. Désormais, il y a un changement dans nos vies, et nous devons nous fixer comme objectif de progresser dans tous les domaines de notre vie, de notre marche chrétienne. La parole de Dieu nous enseigne, et merci Seigneur pour sa parole. Elle nous enseigne que pour progresser, chacun doit marcher et agir en se reposant sur quoi ? Sur les commandements qui nous ont été donnés par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas, et surtout pas, oublier que le Seigneur appelle ceux qui veulent être enseignés et qui sont désireux de le suivre en marchant dans la voie de la sainteté. On va lire quelques versets d'introduction, ça va nous servir le texte de base, et on va voir comment nous devons marcher. On a vu là pourquoi il faut marcher. Le Seigneur nous encourage à marcher toujours de progrès en progrès, surtout pas nous arrêter et aller de l'avant. Mais il y a différentes façons de marcher. On va les développer ensemble. Le texte se trouve dans 1 Thessaloniciens. Alors du coup, c'est plus une surprise parce que vous l'avez vu tout à l'heure quand il y a eu le petit souci. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1er. Le titre dans ma Bible de cette portion que nous allons lire, le titre c'est « Vivre pour plaire à Dieu ». Et je pense que chacun d'entre nous, ce matin, nous poursuivons cet objectif, que ma vie, elle puisse plaire à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alors nous lisons donc ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. En progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. On va prier le Seigneur pour l'annonce de cette parole. C'est tellement important afin que nos cœurs soient ouverts et que nous puissions recevoir la parole comme venant de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta grâce. Seigneur, donne-nous d'être disposés, de la recevoir. Seigneur, mon Dieu, comme la parole qui vient du grand Dieu de l'univers. Ce matin, parle à nos cœurs. Seigneur, oui, dispose-les. Seigneur, mon Dieu, nous sommes, Seigneur, attentifs. Nous voulons être comme cet élève qui est attentif quand le maître va parler. Seigneur, mon Dieu, nous voulons te remercier parce qu'encore ce matin, tu nous donnes l'opportunité d'être dans ta présence et tu veux encore te glorifié dans nos vies, que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Alors, on a vu qu'il faut marcher, et dans ce texte, j'aime beaucoup l'épître de Paul aux Thessaloniciens, parce qu'en fait, ce que Paul leur avait enseigné, ça avait été appliqué. Et ça, c'est vraiment important. Hein, quand il y a un enseignement qui est donné, au lieu d'emmagasiner de la connaissance, c'est de mettre ce qu'on a appris donc en pratique, et ce, tous les jours. Et pour cela, on a besoin, évidemment, de la grâce du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul, au commencement de ce verset, de ce passage, il dit, « Au reste, frères, sous-entendu, après tout ce que je viens de vous dire, maintenant, puisque vous avez appris de nous. » Donc là, on s'aperçoit qu'il y a quand même un élément qui est important pour nous. C'est que il y a des choses que nous devons apprendre. Comment nous devons nous conduire? Et quand il y a apprentissage, ça sous-entend qu'il y a quelqu'un pour indiquer mais comment il faut marcher. Nous remercions le Seigneur parce que le jour où on a donné notre vie au Seigneur, donc est venu dans nos vies le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Alléluia. Donc, les choses que nous devons apprendre, comment nous devons nous conduire et plaire à Dieu. Alléluia. Alors, si on dit que dans nos vies, on poursuit cet objectif de plaire à Dieu, j'aimerais vous dire également ce matin qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et les choses qui ne plaisent pas à Dieu, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous le dire. En général, c'est le Saint-Esprit qui va venir. Tu dois absolument régler ceci ou cela dans ta vie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure de mettre les choses en pratique. Donc oui, plaire à Dieu. Et là, il est dit, et que c'est là ce que vous faites. Et là, c'est la prière de mon cœur. Dans cette semaine, je priais, j'ai dit, Seigneur, que tous les messages qui sont apportés, qu'il puisse être appliqué comme les Thessaloniciens et l'apôtre Paul. Il me semble deviner que quand il dit cela, il y a comme une certaine fierté dans son cœur. Il dit, mais moi, je vous ai amené l'enseignement que le Saint-Esprit m'a inspiré et vous avez obéi et vous avez appliqué ces choses-là. Et que chacun d'entre nous, nous puissions dire, Seigneur, nous voulons être à ton école, poursuivre encore tes enseignements. Là où il peut y avoir un souci dans nos vies, c'est que quand on commence à dire, ça y est, tout est accompli, j'ai plus besoin de progresser, tout va bien, j'ai de l'expérience et je vais donc prendre sur l'expérience que j'ai acquise. Alors ça, c'est vraiment un piège. Que le Seigneur nous aide. Chaque jour que Dieu fait, Seigneur, ce matin, faire cette prière, Seigneur, ce matin, apprends-moi quelque chose qui vienne de toi. Apprends-moi quelque chose qui vienne du ciel, afin que je puisse grandir, progresser. Alléluia. Et alors, on va examiner qu'il y a différentes façons de marcher, de progrès en progrès. Et notamment, quelques-unes. La marche du croyant, elle a ses caractéristiques. Tout d'abord, c'est le premier point, c'est une marche en nouveauté de vie. On bénit Dieu parce qu'un jour, il est venu se révéler à nous. Alors non pas parce que nous étions les meilleurs. Tout à l'heure, dans le passage qu'a lu Vincent, ça le sous-entendait. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, dans l'épître aux Romains. Mais le Seigneur, il s'est donné pour chacun d'entre nous. Et quand il est venu donc se révéler à nous, et quand on a découvert quel Seigneur merveilleux il était, alors a commencé une marche en nouveauté de vie, c'est ce que nous dit Romains chapitre 6 et le verset 4, où il nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par quoi? Par le baptême en sa mort. Il y a ici une assimilation, donc une identification avec Jésus-Christ et sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons comment? En nouveauté de vie, alléluia. Et c'est ce que, quand on découvre cette vie avec le Seigneur, on découvre que c'est une vie nouvelle, quelque chose de nouveau, donc dans notre vie, des choses qu'on cherchait dans ce monde et qu'on ne trouvait pas. Évidemment, parce que ces choses-là ne se trouvent pas dans le monde. Tout à l'heure, il y a eu une prière qui disait, Seigneur, quand on est auprès de toi, la paix vient dans notre cœur. Et c'est la réalité. La paix, on ne la trouvera jamais dans le monde. La paix se trouve auprès du prince de la paix. La chanté. Et Jésus est ce prince de la paix. Alors, quand il y a quelque chose de nouveau, ça veut dire que la mort de l'ancienne vie, elle est suivie d'une nouvelle et qui permet de rentrer dans la grâce de Dieu et son pardon nous est accordé. Alléluia. La dette a été remise, donc elle est effacée. Elle n'existe plus devant le Seigneur. C'est pour ça qu'on est dans la joie. C'est pour ça qu'on est heureux. Le peuple de Dieu, il a cette particularité, c'est d'être heureux. Ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas des difficultés, d'ailleurs, vous le savez. Et les difficultés sont là. Mais dans notre cœur, il y a quelque chose qui nous pousse à dire, Seigneur, je te remercie parce qu'il y a cette nouveauté de vie en moi et je veux marcher dans cette nouveauté de vie. La nouveauté de vie, elle est en Christ Jésus. Elle exprime cette union intime. Nous avons une intimité avec le roi des rois, rendez-vous compte. Si quelqu'un d'entre nous ce matin voulait inviter, ne serait-ce que quelqu'un d'important, hein, je prends l'exemple de notre président de la République, hein, c'est pas sûr que si vous lui envoyez une invitation, il puisse répondre à votre invitation. Mais nous avons cette intimité, ce qui sous-entend que quand je viens dans l'intimité de notre Seigneur, j'ai un libre accès à sa présence et quand je le souhaite, quand je le désire, et ça c'est merveilleux, ça devrait réjouir vraiment notre cœur. Donc oui, elle exprime cette union intime, cet espace de communion avec lui, c'est cette relation, évidemment, hein, dans Jean chapitre 15, entre la vigne et les sarments. Et le sarment, et donc la vie coule en chacun d'entre nous parce que nous sommes dans cette intimité et rattachés, attachés au Seigneur. Alléluia. Quand on parle de choses nouvelles, l'apôtre Paul va le dire cette fois-ci aux Romains. Romains chapitre 8, verset 1er, on connaît très bien ce verset. Hein. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors ici, ce verset, on le connaît, mais c'est tellement important. Hein. Il n'y a donc maintenant, ici l'apôtre Paul il est en train de dire aux Romains, ben, vous devez absolument comprendre qu'il n'y a plus de condamnation. Nous souvent, on se condamne nous-mêmes. On vit dans une certaine culpabilité, mais quand on vient donc devant le Seigneur, cette culpabilité est arrachée, elle est enlevée. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui vit dans la culpabilité, alors la première des choses, c'est de demander pardon au Seigneur. Il y a quelque chose à régler, il faut qu'on puisse le régler assez rapidement. Et ensuite, arrêtez de vivre en coupable. Vivez en personnes qui ont été libérées, alléluia. Et en général, quand on est libéré de quelque chose, on est heureux. C'est rare qu'une personne qui a payé sa dette à la société et qui sorte de prison sorte en faisant la tête. Que le Seigneur nous aide vraiment à réaliser ces choses. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Par contre, pour une certaine catégorie de personnes, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et des fois, on oublie un peu cette partie qui est finalement la plus importante. Aucune sous-entend qu'il y a un mode de vie exigé. La condamnation, c'est une punition après une sentence judiciaire. Que personne s'imagine ce matin que ça n'a rien coûté à notre Seigneur Jésus-Christ le rachat de notre vie. Pour nous, certes, c'est gratuit. Mais pour lui, il a payé de sa vie. Et nous ne devons pas l'oublier. Donc, la condamnation, elle a été payée pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je regardais donc dans la définition en grec de ce passage. Ici, quand il est dit « ceux qui sont en Jésus-Christ », ça sous-entend « ceux qui sont en relation personnelle avec lui ». Vous vous rappelez de ce fameux verset ? Où le Seigneur va conclure le passage en disant, « Dehors, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. » Alors, et après, il y a des revendications. Hein. « Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas dans l'activisme, c'est pas plutôt dans le faire. Mais c'est quelque chose que l'on vit jour après jour et on a une relation personnelle avec le Seigneur. Et ce, tous les jours. Si on a la relation personnelle que le dimanche matin quand vous venez là ou quand vous êtes là, est-ce qu'on peut appeler ça une relation? Évidemment que non. La relation, elle s'entretient. Alors oui, nous marchons en nouveauté de vie. Les choses sont devenues nouvelles, alléluia, et on les découvre au fur et à mesure. Donc, la marche de progrès, c'est une marche en nouveauté de vie, alléluia. La deuxième marche, c'est une marche dans la foi. Ce sont des choses basiques, hein, mais un rappel pour que nous soyons encore une fois alertés par rapport à ce que Dieu veut, parce que nos vies, nous voulons qu'elles plaisent à notre Seigneur. 2 Corinthiens 5:7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et moi, je rajoute, et c'est là que ça se complique. Parce que si ça avait été le contraire, bon, ça irait. Hein. Mais en fait, c'est quand on ne voit pas les choses, quand on ne les sent pas. Des fois, on s'aperçoit, hein, bien le dimanche matin, si je me suis levé du bon pied, si je le sens, je vais louer Dieu. Si je me suis levé du mauvais pied, bon, déjà, ça se voit. On essaie de cacher, mais ça se voit. Et puis, voilà, c'est un peu, on est sur courant alternatif. Est-ce que en tout temps et en toutes circonstances, notre Dieu n'est pas digne de louange? Est-ce qu'il n'est pas digne, même si on a passé une mauvaise nuit? C'est le simple fait de pouvoir s'exprimer devant lui. Alors oui, nous marchons par la foi, c'est la déclaration ici que fait encore une fois l'apôtre Paul, là, cette fois-ci aux Corinthiens. Marcher par la foi, c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, j'aime beaucoup les images qui sont employées dans la parole de Dieu parce qu'elles sont simples, compréhensibles pour chacun d'entre nous ce matin. Marcher, c'est se mettre en mouvement, c'est être continuellement en mouvement. Frères et sœurs, vous qui êtes là ce matin, est-ce que vous êtes en mouvement? Est-ce que vous êtes en action? C'est ça. Marcher, c'est se mettre en mouvement pour faire une chose, pour agir. Une fois qu'on a découvert la vie avec le Seigneur, cette nouveauté de vie, c'est pas vrai qu'il faut juste s'asseoir sur ma chaise et que j'attende le retour du Seigneur Jésus. Je dois pouvoir agir, dire Seigneur, voilà, je veux appliquer ce fameux verset. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Est-ce que ce verset, il est difficilement compréhensible? Je pense pas. Hein. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Nous devons agir de plus en plus pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia, marcher dans la foi, donc c'est se mettre en mouvement. Et d'ailleurs, c'est Paul poursuivait cette mission, hein, que partout il allait, dans tous les endroits, dans les églises, donc qu'il avait implanté. Et ce qu'il voulait, lui, c'était stimuler, motiver la foi de ceux qui étaient déjà sauvés. Il y a cette image. En fait, la foi, c'est un feu que le Seigneur allume dans notre cœur. Et comme tout feu, il a besoin d'être alimenté. Sinon, il va se passer quelque chose de tout à fait logique. Ça va s'éteindre petit à petit. Combien on a vu de personnes donner leur vie au Seigneur, faire une belle déclaration le jour de leur baptême. Et quelques temps après, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et pourtant, un engagement a été pris publiquement devant tout le monde. Alors, ce qui nous encourage, quelque part, c'est que c'est arrivé à un homme de Dieu. Hein. Rappelez-vous, hein, Timothée. L'apôtre Paul, il dit, mais tu as fait une belle confession de foi devant tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça. Hein. Évidemment, on le traduit par nos propres mots. Parce que ça peut arriver. Alors notre responsabilité, c'est de continuellement être alimenté par la grâce de Dieu. Et à chaque fois qu'on se réunit, j'espère que vous le faites personnellement, mais il y a une force du peuple de Dieu quand il se réunit, alléluia, il y a un feu qui est allumé dans notre cœur afin que cette vie, elle soit entretenue. Alléluia. Et on a besoin de cela. Oui, stimuler, c'est ce que faisait l'apôtre Paul, motiver la foi pour un but, c'est d'amener tous ceux et celles qui avaient été sauvés donc à une foi personnelle, une dépendance. Vous avez remarqué, quand il y a une personne qui naît de nouveau, il faut s'en occuper plus que quelqu'un qui a un peu plus de maturité. Parce que la Bible, encore une fois, hein, quand elle emploie des mots, c'est pas utilisé au hasard. Elle dit que quand on passe par cette découverte de la vie avec le Seigneur l'appelle la nouvelle naissance. Et toute personne qui naît de nouveau a besoin de la présence de quelqu'un. afin qu'on puisse enseigner, éduquer, ça il faut pas faire, ça il faut faire, hein, vous savez, avec les enfants. Et ensuite, il y a une progression, et dans cette progression, on devient mature, et à notre tour, on va en enseigner d'autres. C'est ça le but, que le Seigneur nous aide, oui, à avoir cette relation, cette foi personnelle. Donc, il y a évidemment la foi qui sauve, hein. La foi qui sauve, tout simplement, c'est une personne à recevoir. C'est la personne du Seigneur Jésus. Il y a également croire dans les vérités à propos de la dite personne. C'est mener une vie semblable à celle de la personne qui est dans nos vies. Alléluia. Marcher par la foi, c'est tout simplement craindre Dieu. C'est avoir cette crainte respectueuse, c'est obéir à la parole du Seigneur. Marcher par la foi, et c'est l'exhortation ce matin, et laissez Dieu vous surprendre. Évidemment, quand il y a cet exemple d'Abraham, quand Dieu l'appelle à quitter son pays, sa patrie, hein, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis en marche. Et au fur et à mesure de la marche, le Seigneur lui a révélé certaines choses. Est-ce que vous pensez que quand Abraham, il a donc obéi au Seigneur, il était parfait, il a attendu qu'il soit à un certain niveau spirituel, la seule chose qu'il ait fait, c'est qu'il a obéi. D'ailleurs, il a su que cette parole venait de Dieu. Il a obéi, il s'est levé, il s'est mis en marche et en mouvement, c'est ce qu'on disait. Alors oui, marcher par la foi et laissez Dieu vous surprendre. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu surprenant. Et il nous surprendra toujours. On l'a remarqué également, hein, quand on a un besoin, on prie, et puis on a lu dans la Bible que notre situation correspond à ce que quelqu'un dans la Bible a vécu la même histoire que nous. Et nous, on se dit, ben voilà, Seigneur, je te prie, c'est comme ça que tu vas agir. Le Seigneur, il agit différemment. Et là, on se dit, mais je n'avais pas vu venir celle-là. Eh oui, hein, parce que Dieu est surprenant. Alléluia, plein d'exemples là, dans la parole. Hein. Le peuple de Dieu, ils sont là, acculés. Libération, alléluia. Il y avait une belle louange qui était là. Puis, confronté à de l'eau, impossibilité, ils sont dans une impasse. Et puis, ils auraient pu se dire, peut-être que le Seigneur va nous transporter, nous téléporter, faire un détour. Le Seigneur, donc évidemment, ils ont été étonnés. Hein. Des fois, je ne sais pas si on imagine, mais Moïse, donc, avec son bâton, la mer s'ouvre en deux. Il passe à sec. Petit détail important, hein. Il passe à sec, mais je suis sûr, parce qu'il nous ressemble tellement, ce peuple, que quand ils ont commencé à traverser, ils ont dû se dire, qui va le premier ? Est-ce qu'il y a un courageux ? Peut-être qu'il y en avait un. Hein. Il a dit, bon, il faut y aller. Dans les groupes, en général, c'est comme ça. Et puis, essayez d'imaginer, quand ils ont commencé à traverser, ils ont commencé à regarder ces murs d'eau, ça va tenir, tout ça ? Oui, Dieu est étonnant. Ne faites pas de plan. Laissez Dieu vous surprendre. C'est ça, la marche par la foi. Et puis, il y a également une marche. Et cette marche de progrès en progrès, c'est une marche spirituelle, évidemment. Galates 5, verset 16. Encore une fois, l'apôtre Paul, ici, il parle aux Galates. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, ici Paul exhorte les Galates, à mener une vie surnaturellement et continuellement contrôlée par l'esprit de Dieu. J'espère que vous vivez des choses surnaturelles, hein, qui sont surnaturelles pour nous, mais naturelles pour Dieu. Parce que c'est dans sa nature. Hein. Alléluia. Donc, oui, nous devons marcher selon l'esprit, une fois que notre vie a été allumée, le feu est là, le Saint-Esprit habite en nous, il nous conduit dans la vérité. Alors quand on marche selon l'esprit, et ici c'est le conseil que donne l'apôtre Paul, du coup, si vous marchez selon l'esprit, la suite du verset dit, vous n'accomplirez pas les désirs sous-entendu, les satisfactions de la chair. Vous êtes au courant que la chair, elle demande de la satisfaction? Bien sûr que vous êtes au courant. D'ailleurs, on est confronté à ça. Et c'est là notre premier combat. Combattre cette chair qui veut prendre le contrôle. Mais gloire à Dieu, parce que cette chair, il faut la crucifier. Pas s'en accommoder. Et des fois, c'est ce que nous faisons. Hein. C'est pas grave. Ou alors, du laxisme. On verra bien. Mais la crucifier, les mots sont forts. Hein. L'apôtre Paul, encore une fois, il va le dire, mais moi, je crucifie ma chair. Quelle est la dernière fois qu'on a fait cette prière? Seigneur, aide-moi à crucifier ma chair. Avec ses désirs. Et si nous voulons, donc, nous voulons pas accomplir les désirs, les satisfactions de la chair, nous devons marcher selon l'Esprit. Amen. Alors du coup, la question qui vient juste après, comment marcher continuellement selon l'Esprit? Des choses toutes simples, mais encore une fois, à appliquer. Être continuellement rempli du Saint-Esprit. Continuellement, je le disais tout à l'heure, dans cette relation personnelle avec le Seigneur, jour après jour, je veux venir auprès de lui pour être rempli. Alléluia, amen. Et quand on est rempli, on ne prend pas le risque de se vider. Il n'y a rien de plus triste, de plus laid, que quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui finalement n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et vous savez, on peut tromper des hommes. Hein. Encore une fois, ça a été dit ce matin dans une prière. On ne peut pas tromper Dieu. Puis ça se voit quand on est vide. Alors, notre responsabilité, marcher continuellement selon l'Esprit, c'est être continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est combattre, on l'a vu, les désirs de la chair, avoir une vie de prière, pas un moment de prière. Parce qu'il y a des moments de prière dans une vie, dans une marche chrétienne, on en aura tous. Un besoin qui est là, Seigneur, je t'en supplie, sauve-moi. Membre de nos familles qui a besoin, une maladie, ça on va le faire. Mais une vie de prière, construire une vie de prière, c'est-à-dire à un moment donné, je me discipline chez moi. Personnellement, à avoir une vie de prière. Et vous savez quoi? Quand quelqu'un a une vie de prière, donc personnelle, ça a des répercussions dans l'église. On voit qu'il y a quelque chose qui est là. Le reste aussi. Hein. Avoir une vie de prière. Et puis tout simplement, un conseil encore pour marcher continuellement, rempli du Saint-Esprit, c'est aimer Dieu plus que tout. Est-ce que vous aimez Dieu plus que tout? Est-ce que si Dieu... vous enlevez certaines choses, est-ce que vous continuerez à le louer, à l'adorer? Un jour, mon neveu m'appelle, il me dit, tonton, bah, mon épouse a accouché, voilà, il y a un souci avec le petit, et donc, on ne sait pas, on prie le Seigneur, et puis voilà, évidemment, bouleversé. Alors, j'étais dans l'intimité avec mon neveu, et je lui ai dit, écoute-moi, tu as prié le Seigneur? Oui. Et je lui ai dit, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Tu dis que Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur, il est au centre de ta vie. Si Dieu reprend l'enfant, est-ce que tu continues à le suivre? Est-ce que tu continues à l'aimer? Alors, évidemment, bon, je lui ai laissé quelques secondes pour qu'il réponde, mais assez vite, il m'a dit, mais bien sûr, parce que Dieu est souverain. Et c'est là que je lui ai dit, mais regarde Dieu agir. Le petit était là, dans une couveuse, et donc à l'hôpital de Montpellier, dans une situation critique. Donc le corps médical ne se prononçait pas. Et puis, on était là, on regardait à travers une vitre, l'enfant dans cette couveuse. Et je lui dis à mon neveu, on va prier pour que le Seigneur touche cet enfant. Et qui sait si cet enfant, plus tard, servira le Seigneur, fera sa propre expérience et donnera sa vie au Seigneur. Est-ce que tu le crois? Oui. Quand je lui ai dit ça, c'est étonnant. Hein, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est étonnant. Hein. Le petit, donc à cet âge-là, prématuré, situation compliquée, il a levé la tête, il a ouvert les yeux, nous a regardés, comme pour acquiescer ce qu'on était en train de dire. C'est extraordinaire. Alors, je ne vous dis pas, ils étaient là, ils faisaient des bons. Voilà, la puissance du Seigneur. Et c'est ça, aimer Dieu plus que tout. Un autre témoignage, à un moment donné, quelqu'un qui me disait « J'en ai marre parce que depuis quelque temps, il m'arrive que épreuve sur épreuve, si ça continue, j'abandonne Dieu. » Ça, c'est du chantage. Hein. Vous savez qu'on ne fait pas de chantage à Dieu. Hein. Et des fois, ça peut arriver, hein, même dans nos prières, dans nos façons de nous exprimer, on ne fait pas de chantage à Dieu. Tout est par grâce. Une chose est certaine, n'oubliez jamais, 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 tout ce qui peut nous arriver, que Dieu est amour. Ça, c'est la réalité des choses. Alors, oui, aimer Dieu plus que tout. Quand on parle de marcher selon l'esprit, pourquoi ? À un moment donné, Jacob, fin de sa vie, en général, quand on est en fin de vie, on ne raconte pas de blagues, hein, quand on réunit ses enfants. Et là, il va les réunir et puis il va leur donner des paroles de bénédiction. Regardez ce qu'il va dire à Aser. Deutéronome 33, 24. Sur Aser, il dit, « Béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, et regardez la dernière partie, et qu'il plonge son pied dans l'huile. » C'est quoi le symbole de l'huile ? Saint-Esprit. Pourquoi tremper le pied ? Autre question. Parce que quand on trempe le pied, ensuite, quand on marche, on va laisser des traces. Ce verset, il est extraordinaire. Hein, il ne peut pas être banal comme ça. Tremper son pied afin de pouvoir laisser des traces. Et que chacun d'entre nous, à notre petit niveau, nous puissions laisser des traces dans nos familles. Là où le Seigneur nous appelle, là où on travaille, où on exerce donc un métier, que je puisse laisser une trace. Que je sois de ceux qui attirent les gens à eux, pas qui les repoussent. Que Dieu nous aide vraiment à être comme un Aser. Donc oui, la marche, de progrès en progrès, donc c'est une marche spirituelle. Ensuite, marcher pas n'importe comment. Marcher en dignité. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à faire quoi ? À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Comment ? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité. Est-ce que vous supportant les uns et les autres, qu'est-ce qu'on en fait ? On le barre ou on essaie de le vivre ? Est-ce que je dois supporter mon frère et ma sœur ? Oui. Alors ce oh-là-là, j'ai pas l'interprétation. Et oui, mais bien sûr qu'on doit se supporter les uns et les autres. Vous savez que supporter, il a deux sens en grec. Supporter dans le sens, eh oui, je dois supporter. D'ailleurs, c'est Romains chapitre 14, supporter les faibles dans la foi. Et des fois, quand on est faible dans la foi, des fois, on peut être pénible. Et ça, c'est moi qui le dis, hein, qui le rajoute. Mais supporter veut également dire supporter. Et ça vient de là, le mot. C'est supporter, c'est encourager. C'est allez, mon frère et ma sœur, allez, tu vas y arriver. C'est ça, hein, supporter. Vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant, vous voyez, il y a un effort, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. On l'a vu vendredi, je veux être un artisan de paix. Quelqu'un qui s'investit afin qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'unité dans l'Église. Vous savez que pour avoir la paix et l'unité, il y a des choses qu'on va subir et qu'on va supporter par rapport à un moment donné de se dire eh bien, je veux prendre sur moi. Je veux apprendre à perdre. Pas évident, ça. Hein. Surtout quand j'ai raison. En général, quand on discute, on a tous raison. Hein. Dire, ben, est-ce que c'est si grave dans la façon également de se parler les uns aux autres. Si je considère mon frère et ma sœur au-dessus de moi, ce qu'on dit la parole, hein, comment je dois lui parler ? Et des fois, simplement, dans nos relations, je crois qu'on doit vraiment avoir les sentiments de Christ. Quand on se parle, on est dur. Parole dure. Le ton est dur. Que le Seigneur nous aide vraiment à ce qu'on puisse se parler entre frères et sœurs. Mais c'est ça, en fait, marcher dans la dignité. La dignité, c'est de marcher la tête haute. On a assez marché en regardant nos chaussures. Parce que sous le poids de la culpabilité et du péché. Mais quand le Seigneur est venu donc nous enlever cette culpabilité, désormais nous marchons la tête haute, pas avec notre propre fierté, mais parce que désormais nous sommes des enfants de Dieu. Le peuple élu, une race élue, une nation sainte, ce que nous dit un Pierre. Hein. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alors oui, le salut est une porte qui est suivie d'un chemin. C'est un don gratuit, c'est qui est suivi d'un style de vie qui va coûter, ce que nous dit ce verset. Alors oui, marcher en dignité, c'est une marche dans l'amour. C'est le ciment, en fait, hein. c'est ce qui nous relie, c'est l'amour. Éphésiens 5, verset 1, 2. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. C'est exactement pareil pour nous. La marche dans l'amour exige du sacrifice. Quelque chose à sacrifier. Une grasse matinée. Et oui, quand on a une semaine dure. Ouais, me disait, pasteur, j'étais pas là dimanche, j'étais fatigué. Ça peut arriver, hein. Fatigué. Il savait pas que quand la personne qui venait me voir, il parlait à quelqu'un qui faisait des 70 heures par semaine. On venait me dire, mais je suis fatigué. Alors certes, hein, on est tous différents, mais je crois qu'il y a des choses à sacrifier dans nos vies. Souvent, on est pris par les choses du monde. Hein. On ne veut pas dire que ce n'est pas important. Évidemment, il y a des choses importantes. Il y a quelque chose vraiment qui doit être trouvé dans notre cœur. C'est marcher dans l'amour d'abord avec le Seigneur. Et quand on marche dans l'amour avec le Seigneur, alors on aura de l'amour les uns pour les autres. Ça sera automatique. Hein. Puis il y a une marche. C'est la sixième. Une marche. Dans la lumière, 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, conditionnel ici, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que la lumière ? Hein ? C'est mettre ma vie en conformité à la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Le résultat, c'est de vivre une vie libre, qui est bonne. Bonne dans le sens de donner du goût. Est-ce que ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, où Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, quand ils vous voient, ils ont envie d'être comme vous? C'est ça, donner du goût. C'est ça, avoir une vie bonne et dire, mais cette personne, je ne sais pas, quelque chose que je n'ai pas. Vivre une vie libre et bonne, avoir toujours une conscience bonne et tranquille. Ça, c'est le résultat. La lumière, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va montrer la vérité. Elle me montre quoi ? Première des choses, elle ne va pas me montrer les défauts du frère ou de la sœur. La lumière va venir éclairer mon propre orgueil. Mon ego. Et le Seigneur, dans cette marche progressive, ce qu'il veut faire, c'est, alors je le dis comme ça, hein, alors il ne faut pas prendre la phrase dans son contexte, il veut nous tuer. Le Seigneur veut nous tuer. Tuer notre ego. Il faut le rajouter. Sinon, Et le moi qui décide de tout, que le Seigneur nous aide donc à marcher dans la lumière. Puis je termine avec la dernière marche. C'est une marche comme Christ. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et là, on dit, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de marcher comme toi. Ici, c'est quoi? L'emphase, évidemment, est sur le fait qu'il y ait une foi qui soit vraie. Un style de vie, pas une religion fade, froide, quelque chose d'insipide, mais voilà, c'est quelque chose de réel, relation avec Christ, une marche comme lui. C'est le but, en fait, de chacun d'entre nous, pour tous les chrétiens. Pour le but du christianisme n'est pas seulement d'aller au ciel lorsque nous mourons, c'est pas simplement ça, mais c'est également de vivre comme au Christ, dès maintenant. Nous sommes sauvés pour servir. Est-ce qu'on sert le Seigneur avec nos capacités? Nous sommes envoyés en mission, chacun d'entre nous. Je le disais tout à l'heure, une fois que le Seigneur nous sauve, c'est pas juste pour attendre le retour du Seigneur, mais c'est de participer à la mission. Elle est excitante, cette mission. Gagner des âmes à Christ. Et le Seigneur veut le faire au travers de nous. Moi, j'ai toujours été impressionné. Le fait de pouvoir partager l'Évangile, que des hommes, des femmes se tournent vers le Seigneur et que le Seigneur m'ait utilisé. J'ai dit, Seigneur, je te remercie pour cela. Il n'a pas besoin de nous, le Seigneur. Mais il veut que nous puissions participer à cette mission qui est merveilleuse, qui est glorieuse. Je ne sais pas si on imagine, quand on va se retrouver là-haut, que plusieurs puissent venir nous voir et nous dire, tu sais, si je suis là, c'est à cause ou grâce à toi. Ce serait extraordinaire, hein? Alors, que le Seigneur nous aide. Et je conclue. Le Seigneur nous a dit que dans cette marche, il ne nous laissait pas seuls. Qu'il serait toujours avec nous. Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous quand? Tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. À moins qu'il se soit passé quelque chose dans la nuit où on est passé à côté. La fin du monde n'est pas arrivée. Alors, Jésus est avec nous tous les jours et il va nous aider à grandir, à progresser. Et vous savez quoi? Ces progrès, ils seront évidents pour tous. Si vous lisez dans l'épître de Paul à Timothée, il parle également de marcher de progrès en progrès. Il lui dit, Timothée, que tes progrès soient évidents. Comment? En parole, en action. Un acte, et là vous avez l'évangile pratique. Que le Seigneur nous aide à ce que chacun d'entre nous, nous puissions grandir, progresser. Et si nous, nous grandissons, alors l'Église, elle va grandir, et le Seigneur va envoyer dans l'Église ceux et celles qui sont sauvés pour écouter le bon message de l'évangile. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole, Seigneur. Ta parole, elle est bonne pour nos vies, pour nos âmes. Nous avons été, Seigneur mon Dieu, pendant tout ce temps, cette matinée, Seigneur, au bénéfice de ta présence. Et ta présence, oui, elle est bonne pour nos vies. Nous voulons te remercier parce qu'encore, tu fais des choses extraordinaires. Seigneur, je veux te prier pour que chacun d'entre nous, nous poursuivions, Seigneur, cet objectif, Seigneur, de te plaire. Et que nos vies progressent. Seigneur, s'il y a des choses à abandonner, Seigneur mon Dieu, que ce matin, on puisse les abandonner une bonne fois pour toutes. Seigneur, qu'il y ait des résolutions dans les cœurs, afin de te plaire, Seigneur. Que nos vies puissent te plaire encore davantage, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à marcher dans toutes ces différentes marches que nous avons vues ce matin, Seigneur. Et que, Seigneur mon Dieu, à toi seul revienne toute la gloire. Si quelqu'un, Seigneur mon Dieu, ce matin s'est reconnu à un moment donné, Seigneur, touche sa vie, touche son cœur. Et que nous puissions mettre des choses en pratique. Parce que ce que nous désirons, c'est voir ta gloire. Nous en avons tellement besoin, Seigneur. Un temps de réveil personnel. Un temps de réveil également, Seigneur mon Dieu, dans ton Église. Un temps de réveil dans le milieu évangélique. Un temps de réveil dans le monde, Seigneur mon Dieu. Ton retour est imminent. Seigneur, il y a tellement d'hommes et de femmes qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, utilise-nous comme bon te semblera. Seigneur, je te présente cette semaine nouvelle qui se présente à nous. Seigneur, que tu puisses nous utiliser. Seigneur, utilise mon frère, ma sœur. Peut-être, Seigneur, un sujet de prière qui est là, Seigneur, depuis tellement d'années, Seigneur. Que nous puissions nous attendre, Seigneur, à du surnaturel qui vient de toi. que nous puissions nous attendre à quelque chose de miraculeux, Seigneur, et que dans quelque temps, nous puissions nous retrouver afin de pouvoir le raconter. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, la puissance, l'autorité, le règne. Merci, Seigneur, pour ces moments. Raccompagne-nous, Seigneur, avec ta paix, ta joie, ton incroyable amour, Seigneur, déversé à la croix du calvaire. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen.